parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Bonjour Goma, nous allons commencer par vous. Nous prenons trois questions.
Oui, c'est Gina Mulumba pour le compte de Michapi Voice TV. Ma question s'adresse indistinctement à M. Manoj ou au colonel Bass. La Commission nationale pour les réfugiés se dit consternée et inquiète de l'affluence d'un groupe de personnes non identifiées, mais provenant du Rwanda et de l'Ouganda vers Jomba, c'est en territoire de Rutshuru. J'aimerais savoir si la MONUSCO possède plus d'informations par rapport à ces sujets et est-ce qu'elle pense de ça, d'autant plus qu'une certaine opinion estime que ces soi-disant réfugiés sont en réalité des renforts au M23.
Mon colonel.
Oui, merci pour votre question. Jusqu'à présent, nos troupes qui sont sur le terrain sont déployées pour essayer de confirmer ou d'infirmer ces informations-là. Évidemment, nous en avons eu écho, comme tout le monde, particulièrement par les différents médiums de la place. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons ni certifier ni infirmer cette information-là.
Merci. Deuxième question de Goma, s'il vous plaît.
Oui, c'est Constance de Digital Congo. J'aimerais poser ma question s'adresse à Madame Dorothy du PNUD. Elle vient de dire tout à l'heure que le logiciel Sidonia vient d'être lancé, alors qu'il y a quelques années, si je me rappelle bien, en 2003, le gouvernement congolais avait lancé les mêmes logiciels pour la sécurité aux frontières, guichet unique. Comment est-ce qu'ils vont travailler avec le gouvernement congolais dans ce programme? Est-ce qu'ils ont vérifié, ils ont fait les suivis, que ça a été efficace pour qu'à leur tour, entre dedans? Merci.
Oui, c'est notre collègue Geneviève. Geneviève Dolenois, c'est non pas Dorothée avec nous aujourd'hui. Geneviève?
Oui, merci pour votre question. Effectivement, la RDC utilise déjà le logiciel depuis 24 ans, donc ça prouve bien qu'elle a compris l'importance d'installer un tel logiciel dans son bureau, dans son système douanier. Ce qui est novateur dans ce programme-ci, c'est qu'il va être beaucoup plus puissant en termes de fonctionnalité et il va être distribué pratiquement dans tout le pays. Donc, c'est une étape supplémentaire dans l'efficacité du système de dédouanement et il n'y aura plus cette accumulation de paperasseries, ces différentes étapes où il fallait tamponner différents documents. Donc, tout va être informatisé, stocké, sécurisé, protégé. Et donc, c'est tout bénéfice, non seulement pour les clients qui auront un accès beaucoup plus rapide à leurs affaires. Les biens périssables ne seront plus en danger dans les hangars et cela ramènera plus de recettes à l'État congolais puisque ce logiciel permettra de lutter contre la fraude et la corruption. Donc il y a des effets positifs additionnels à cette seconde étape du logiciel Sidonia World.
Merci. Une autre question de Goma?
Oui, Aline Engwe, Top Congo FM. La manière dont les concertations nationales ont été organisées, l'ONU croit-elle que ces assises ont été en accord avec le dialogue inclusif de la résolution 2098? Merci.
Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons vu des Congolais prendre une initiative afin de renforcer la cohésion nationale et aller vers des objectifs pour plus d'unité, créer les conditions nécessaires pour, je dirais, le développement de ce pays. Vous savez que dans toute œuvre, il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Quel que soit ce que l'on peut faire, il y aura toujours des imperfections, mais il faut savoir apprécier les actes qui sont posés, et nous ne pouvons que apprécier l'acte qui a été posé, même si elle a des imperfections, il a quand même c'est quand même un acte positif, et c'est ça qu'il faut apprécier. Nous venons maintenant à Kinshasa, nous prenons la première question sur la droite.
Oui, Albert Omban, America TV. Je voudrais m'adresser au porte-parole militaire. Et quelle est la lecture ou quelles sont les conséquences que la MONUSCO tire après la reddition du groupe Folk au niveau de Béni? Est-ce que cela va améliorer les conditions sécuritaires dans ce territoire? Et une seconde question, il y a un élément qui des FARDC au niveau de Kalongé qui avait commis de meurtre contre ses collègues et qui est disparu. Est-ce que vous avez quelques échos à ce sujet? Merci.
Oui, merci beaucoup pour vos deux questions. Je commencerai par la deuxième, si vous le permettez. Je pense que concernant cette histoire au niveau des FARDC, je ne peux pas spéculer là-dessus. Il serait bon que vous vous rapprochiez des FARDC qui vous en diront un peu plus. Maintenant, concernant la reddition du leader des forces économiques pour la libération du Congo, évidemment, c'est quelque chose que nous saluons parce que toutes les activités que nous menons de manière quotidienne avec ou sans les forces de défense et de sécurité congolaises concourent toutes justement à mettre un terme aux activités des groupes armés. Et je pense bien que dans cette partie du Bénin, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, des autorités administratives militaires et même certaines autorités de la MONUSCO avaient mené une campagne de sensibilisation et des réunions avaient été tenues à Otcha dans le cadre de pousser tous ces groupes armés à la reddition. Et je pense que ce sont les fruits justement de toutes ces entreprises menées en amont que nous sommes en train de récolter. Oui, nous saluons cette reddition et nous encourageons tous les autres groupes armés à faire de même afin que les populations du Nord Kivu puissent avoir un peu de paix.
Deuxième question, pasteur.
Merci pour la parole, pasteur Chubangu pour le scribe. Monsieur le porte-parole, vous avez parlé des restaurations de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC et je crois que sauf les Rutshuru. Parce que comment conciliez-vous ces nouvelles colonies de peuplement de la part du Rwanda qui, aux yeux et aux vues de la communauté internationale, s'investit à remplacer la population congolaise dans des zones occupées par les M23 à une population qui est venue juste du Rwanda? Est-il donc permis en droit international que de rebelles puissent repeupler les territoires sous occupation? Comment les HCR et la communauté internationale peuvent-ils faire gober aux Congolais pareille chose? Merci beaucoup.
Je pense que c'est la même question qui avait été posée tout à l'heure et le colonel vous a répondu. Nous sommes au courant de ces informations qui circulent. Actuellement, nous ne pouvons pas confirmer ni infirmer que de tels peuplements est en train d'être fait. Par conséquent, je ne pourrai pas me prononcer plus sur ce que vous avancez puisque nous n'en avons pas encore de preuves formelles. Vous spéculez justement. On ne va pas spéculer là-dessus. Quand nous aurons les preuves, nous allons répondre à cela. RTNC.
Merci, c'est venant vous dire ça pour la RTNC, mais j'ai deux questions. La première, c'est je l'adresse au colonel. Mon colonel, hier au cours de la cérémonie, évoquant les souvenirs du commandant Katibou, si je ne me trompe pas, Chaban, et du soldat Munga Igo, on a noté la présence d'aucun officiel congolais. Pourquoi les officiels congolais n'ont-ils pas été associés à cette cérémonie? Parce que ce n'est un secret pour personne, ils sont morts pour la cause congolaise. À vous deux, je m'adresse en ces termes, à la 68e Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu des suggestions de la part de deux représentants, Mme Robinson et M. Kobler. Qu'est-ce qu'ils ont proposé ou qu'est-ce qu'ils ont suggéré à propos de l'amnistie, de l'intégration et pourquoi pas du désarmement des ex-rebelles? Vous pouvez quand même entrer dans leur sillage et nous en donner quelques informations. Merci.
Je prends la deuxième question et peut-être que le colonel va compléter. Je pense que vous êtes au courant du rapport que le secrétaire général a présenté hier devant le Conseil de sécurité concernant la mise en œuvre de l'accord d'Addis Abeba. La position des Nations Unies et de la communauté internationale est très claire. Il n'y aura pas d'amnistie, il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas de prime à, pour ces criminels qui s'adonnent à des activités allant contre le droit de l'homme et que l'on a très bien identifié. Et ça, c'est la position de la communauté internationale. Pour répondre simplement à votre question, la communauté internationale n'encourage pas et ne soutiendra pas une amnistie en faveur de ces personnes. Mon colonel.
Merci pour votre question qui est quand même assez difficile. Mais je dirais que je voudrais d'abord vous rassurer que nos relations avec les autorités gouvernementales, administratives ou même locales de ce pays sont excellentes. Nous entretenons dans une parfaite cohésion des relations qui sont exclues de toute forme d'amalgame. Ça, c'est une première précision qu'il faut faire. Mais aussi, il faut dire que les autorités congolaises avaient déjà, bien avant même que cette cérémonie n'ait été organisée au niveau de l'état-major de la MONUSCO, les autorités congolaises avaient exprimé leur profonde tristesse et avaient condamné avec la dernière rigueur justement ces actes lâches posés par les M23 lors des combats qui ont opposé l'armée congolaise au M23 dans la région de Kibati. Donc, cette cérémonie était une cérémonie organisée en interne, en famille, mais je puis vous assurer que les autorités congolaises se sont toujours associées à toutes les activités que nous menons pour le bien des populations, mais aussi ont toujours été de notre côté et ont exprimé avec vraiment beaucoup de tristesse justement le décès, leur condoléance suite au décès de ces deux casques bleus de la brigade d'intervention.
Merci. Passons sur la droite. Oui.
Merci. Je suis Benoît Kambéré Lusumba du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Il ne me reste plus qu'une question parce que ma collègue de Goma a évoqué la question de concertation, bien que la réponse ne nous a pas satisfait. Je pose donc ma question au lieutenant-colonel Bass. Mon colonel, vous avez déclaré ici, il y a deux semaines, que la MONUSCO n'était pas neutre en ce qui concerne les activités militaires. Et vous savez, vous l'avez dit aussi, que le Rwanda a légitimement amassé des troupes sur sa frontière. S'il advenait que le Rwanda franchisse le Rubicon, qu'est-ce que la brigade fera et qu'est-ce que la MONUSCO fera? J'ai dit.
Merci pour votre question. Je commencerai par y répondre en disant qu'avec des si, on mettrait même Kinshasa dans une bouteille. Effectivement, le Rwanda, j'ai dit ici il y a deux semaines que le Rwanda avait, suite à une question qui m'a été posée, avait déployé des troupes le long de la frontière et je disais que ceci entrait dans le cadre, était tout à fait conforme à toute réaction de tout pays qui, face à une situation d'insécurité, prend les mesures idoines afin de protéger ses frontières et de protéger ses populations. Ceci est une précision. La deuxième chose que j'avais aussi évoquée ici lors de la dernière conférence de presse, c'est justement cette tendance à vouloir toujours voir d'un mauvais œil ce qui se passe chez le voisin. Mais je pense qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes, les forces armées de la République démocratique du Congo, de concert avec la force de la MONUSCO, sont en train de mener des activités qui permettent de renforcer la sécurité des populations civiles dans la province du Nord Kivu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une différence ni dans le ton ni dans le verbe de ce que j'avais dit. Effectivement, c'est tout à fait normal, de mon point de vue, que le Rwanda puisse déployer ses troupes. Mais ces troupes ne sont pas dans les territoires congolais. Donc jusqu'à présent, je pense que ceci entre dans le cadre normal de la protection ou de la sauvegarde des frontières internationales de tout pays.
Merci. Oui.
Je suis Lalisa Vesterov, je travaille pour Radio France Internationale. C'est une question au lieutenant-colonel Bass. Je voudrais savoir qu'est-ce que la MONUSCO compte faire dans la petite commune de Pinga face au chef Maïmaï Cheka et ses incursions répétées dans le Massissi. Il y a eu encore le week-end dernier une centaine de cases brûlées, des femmes violées. Or, il se trouve qu'à Pinga se trouvent des troupes de la MONUSCO. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'on peut espérer une intervention de la brigade d'intervention et quand?
Et vous savez très bien, madame, que la MONUSCO ne restera jamais inactive face à des actes d'une telle cruauté qui sont perpétrés dans Pinga par Tcheka et son groupe, le Nduma Defense du Congo. Et je pense aussi que dans mon propos liminaire, j'ai bien indiqué que le commandant de la force de la MONUSCO s'était rendu aussi bien à Pinga qu'à Sake afin d'évaluer la situation sécuritaire parce que Pinga est devenue une préoccupation majeure pour la force de la MONUSCO. Maintenant, quelles sont les actions qui vont être menées? Quand et sous quelle forme? Je pense que ceci quand même revient un peu, ou en tout cas peut être intégré dans le cadre de nos planifications et des informations que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique des Bénins. Mais soyez sûrs et certains que des actions seront prises dans cette partie du pays parce que nous ne pouvons pas rester ni insensibles ni inactifs face à ce que Tcheka est en train de faire présentement. Nous déployons nos troupes sur le terrain pour protéger les populations civiles contre les éventuelles exactions. Parce que n'oubliez pas que Tcheka est en conflit permanent avec Janvier Kariri, qui est le chef de l'Alliance pour un Congo libre et souverain, pour le contrôle de Pinga. Donc Pinga sera bien sûr dans notre agenda et très bientôt.
Oui, derrière.
Merci. Carlos Mupili pour la CSRPM. Ma question, je l'adresse au porte-parole, M. Mounoubaï. C'est avec satisfaction que je suis le message du secrétaire général Ban Ki-moon, surtout quand il dit c'est avec il faut combattre le mal ou bien le trouble de paix avec courage et détermination. Est-ce que les Congolais peuvent espérer par ce message que l'ONU maintenant aura le courage et détermination devant le crime odieux ou d'agression devant le Rwanda et l'Ouganda, malgré leurs parents qu'on sait qu'ils sont très puissants. Et ma deuxième question, c'est à Otia Edmond. Ça fait plus d'un mois, Yvon Piton. Plus d'un mois que c'est sur votre table les dossiers sur la localité de Kianama qui a été incendiée par de Maïma Iraya Mutomboki. Est-ce qu'on peut savoir la suite? Merci.
Oui. J'espère que vous avez remarqué depuis un certain temps qu'il y a un changement dans le discours de la MONUSCO. Un discours qui va aussi avec des actions sur le terrain. Tout cela, c'est le résultat de notre autocritique dans le temps, qui nous permet de rectifier le tir, d'ajouter ou de retrancher un certain nombre de choses pour nous rendre plus efficaces. Mais vous remarquerez aussi que le représentant spécial dit toujours que nous allons prendre ces actions avec les Congolaises, les Congolais et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas pour la MONUSCO de prendre des actions seules qu'elles pensent sont nécessaires ou sont bonnes pour la République démocratique du Congo. Encore une fois, la République démocratique du Congo n'est pas un pays qui est sous tutelle des Nations Unies. Il y a encore dans ce pays un gouvernement, des institutions nationales. Le rôle de la MONUSCO ici et de la communauté internationale a toujours été de soutenir l'effort national. Il faut qu'il y ait un effort national qui vienne de tous. Et la communauté internationale va soutenir ceci. Mais si vous voulez que la responsabilité totale et entière demeure seule de la communauté internationale, vous faites fausse route. Il faut complètement changer votre paradigme de réflexion quand vous commencez à poser ces questions-là. Mon colonel, vous avez une question pour vous, je crois.
C'était pour Yves. Oui, en fait, vous faites allusion à un événement qui a eu lieu, je pense, il y a peut-être 2 ou 3 mois. Malheureusement, là, je n'ai pas les dernières infos, mais on pourra en parler après la conférence de presse.
Merci. Chine Nouvelle.
Merci, c'est Steve Wemby pour l'agent Chine Nouvelle. J'ai 2 petites questions. La première, c'est, je l'adresse au porte-parole Mounoubaï. Selon des médias, il paraît que cette semaine, la RDC va recevoir une visite de membres permanents du Conseil de sécurité qui vont séjourner ici en RDC. Alors, j'aimerais savoir l'objet de cette visite. Et la seconde question s'adresse au colonel Bass. Selon la société civile du Nord Kivu, 36 personnes ont été enlevées en une semaine. Et la société a dénoncé la présence des islamistes El Shabab. Est-ce que la MONUSCO peut confirmer la présence des islamistes en RDC? Merci.
Oui, concernant la première question, je peux vous confirmer qu'effectivement, une délégation du Conseil de sécurité arrive à Kinshasa ce 4 octobre. La délégation sera à Kinshasa et va ensuite se rendre à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. La délégation vient bien entendu pour rencontrer les autorités de ce pays, échanger avec elles sur les sujets de l'heure qui intéressent les deux parties. Une conférence de presse est prévue le 5 à 18h à l'hôtel du fleuve. Vous y êtes tous, bien entendu, cordialement invités et vous aurez donc à parler directement avec cette délégation. Mon colonel.
Oui, merci pour votre question qui a trait aux enlèvements répétitifs qu'on a constatés dans la partie du Grand Nord où sévit l'Alliance démocratique, l'ADF Nalu, qui est d'origine ougandaise. Je peux confirmer ces enlèvements parce que c'est une zone où cette pratique est très courante. Par contre, confirmer la collusion probable de ADF avec l'Al-Shabaab, je ne saurais le faire. Toujours est-il que les analyses qui ont été recoupées font état d'une probable ou d'un probable rapprochement entre l'ADF, Nalu et l'Al-Shabaab, parce que tous les deux ont un agenda qui est islamiste. Donc, ça s'arrête là, la comparaison. Je ne saurais vraiment confirmer cette information-là, s'ils sont vraiment dans le territoire congolais.
Merci. Nous repartons à Goma pour une question. Goma.
Voilà, c'est Alain à la Médio, Channel Télévision. Je voudrais m'adresser au CNID. Donc, pendant toute cette période, on n'a pas attendu vraiment de projet orienté vers le VIH-Sida. Est-ce que vous oubliez les personnes vivant avec le VIH-Sida ou vous oubliez les risques que courent d'autres gens non infectés jusqu'à présent en République démocratique du Congo?
Merci pour la question. Notre collègue du bureau VIH-Sida n'est pas ici, mais ce que je peux vous dire, c'est à ONU-Sida, en accord avec, c'est l'ONU-Sida en accord avec le PNMLS qui s'occupe du projet SIDA. Il y a bien entendu un volet VIH-Sida à l'intérieur de la MONUSCO, mais ça c'est un volet qui s'adresse purement et directement au personnel de la MONUSCO, les personnels civils et le personnel non MONUSCO. Ce que je dois vous dire, c'est que, comme vous le savez, l'ONU-SIDA travaille avec le PNMLS et je pense que le programme national est actif. Il est financé en partie par ONU-SIDA et je pense aussi par le Fonds mondial. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais peut-être passer la parole à Yvon qui peut compléter ça. Pardon, à Geneviève.
Merci pour votre question. Je voulais vous dire que le VIH-Sida reste une priorité pour le PNUD et pour d'autres agences des Nations Unies qui sont spécialisées là-dedans. Il s'agit en fait d'une synergie d'agences de développement qui vise à précisément lutter contre la stigmatisation, la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida, en abrégé PVVIH, et des programmes de conscientisation, de formation des avocats, des éducateurs, des leaders politiques, des employeurs sont dans les cartons pour précisément informer que si l'on est malade du sida, c'est une question privée, personnelle, et que la dénonciation de son statut de malade du sida n'est pas à l'ordre du jour. Et la deuxième chose, c'est qu'il est vraiment important de lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Donc, va bientôt se mettre en route tout un programme qui visera également les élus de la nation qui auront à revenir sur les lois congolaises liées à ce problème du VIH-SIDA. Donc, soyez sûrs que cette question demeure une priorité et une très grande préoccupation au Congo pour les agences de développement des Nations Unies, mais également pour le pôle de la MONUSCO et pour l'humanitaire.
Ok, merci. On peut prendre une question à droite. Le micro arrive. Donnez à une dame, s'il vous plaît.
Où est la dame?
Dame. Passez à la dame là. Il y a une dame qui a. Levez votre main quand vous voit. Levez la main quand vous voit.
Liliane Lelo, OREM Télévision, Bas Congo. Ma question s'adresse à Geneviève. J'ai suivi votre intervention par rapport à la situation de la femme en RDC. Mais à l'Assemblée nationale, dans le calendrier, ils ont présenté 45 matières parmi lesquelles se figurent aussi les projets de loi portant modalités d'application des droits de la femme et de la parité et puis du code de la famille. Quels sont les points que vous pensiez qui ne peuvent pas manquer dans ces projets de loi pour que la femme en République démocratique du Congo puisse vivre en paix?
Vous avez votre question à qui? À Geneviève.
Merci pour votre question. Je ne peux pas vous répondre de façon précise parce que je ne connais pas le texte législatif en question suffisamment bien. Ce que je peux vous dire, c'est que le PNUD et d'autres agences du système des Nations Unies travaillent beaucoup à ce qu'on appelle l'équité genre, donc l'accès équitable des femmes et des hommes aux postes de travail, aux postes de décision, aux postes de responsabilité. Dans cette mesure-là, récemment, le PNUD a travaillé très très fort avec le ministère de la Famille, du Genre et de l'Enfant pour mettre au point une stratégie genre qui soit intégrée dans tous les programmes des ministères de la République démocratique du Congo, de façon à ce que non seulement dans le principe on accepte l'équité genre, mais que ce soit aussi inscrit dans la budgétisation des programmes ministériels. Parce qu'on ne peut pas seulement rester au niveau des paroles, il faut aussi passer au niveau des actes et trouver les financements et les moyens pour réaliser cette équité genre. Mais si vous voulez, on peut rester en contact pour plus de détails à ce sujet.
Voilà, merci beaucoup. On en a fini pour aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que la conférence de presse de la délégation du Conseil de sécurité sera le 5 à 18h à l'hôtel du fleuve pour vous qui êtes ici à Kinshasa, et pour vous de Goma, notre bureau là-bas vous donnera les heures et les autres indications. Merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine.